30. C'est Hodges qui conduit la Mercedes de Holly. Il respecte la signalisation et ne change pas de voie à tout bout de champ. Il n'est pas du tout surpris que cette course du Northside jusqu'à la librairie de Halliday dans l'Eastmaker Lane lui en rappelle une autre, bien plus folle, à bord du même véhicule. C'était Jérôme qui conduisait cette fois-là. « Comment tu peux être sûr que le frère de Tina est allé voir ce Halliday ?» demande Jérôme. « Il est assis à l'arrière cet après-midi. »« Parce que, » répond Holly sans lever les yeux de son iPad, qu'elle a retiré de la spacieuse boîte à gants de la Mercedes. « J'en suis sûr, et je pense même savoir pourquoi. C'était même pas un livre signé en plus. » Elle tapote l'écran et marmonne. « Allez, allez, allez ! Connecte-toi, couillounous ! Qu'est-ce que tu cherches, Holly Berry ?» demande Jérôme en se penchant entre les deux sièges. Elle se retourne pour le fusiller du regard. « M'appelle pas comme ça, tu sais que je déteste !»« Ok, ok, désolé. » Jérôme lève les yeux au ciel. « Je te le dirai dans une minute, » répond-elle. « J'y suis presque. J'aimerais juste avoir une connexion Wi-Fi au lieu de cette saloperie de connexion réseau. C'est tellement lent et cacaboudin !» Hodges éclate de rire. C'est plus fort que lui. Cette fois, c'est vers lui que Holly se tourne pour le fusiller du regard, non sans continuer à taper sur l'écran de sa tablette. Hodges est déjà sur la rampe d'accès au périphérique intérieur et il s'adresse à Jérôme. « Je commence à y voir clair. En supposant que le livre dont Pete a parlé à Ricoeur soit en fait un carnet d'écrivain, celui que Tina l'a vu cacher précipitamment sous son oreiller.
« Oh oui, c'était ça !»
intervient Holly sans quitter des yeux son iPad.
« Holly Gibney est formelle là-dessus !»
Elle tape autre chose, fait défiler l'écran et lâche un cri de dépit qui fait sursauter ses deux compagnons.
« Oh, c'est touffu pub ! Ça me rend dingo !»«
Calme-toi !» lui dit Hodges.
Elle ne l'écoute pas.
« Attendez, attendez, vous allez voir !»
« L'argent et le carnet étaient ensemble, » dit Jérôme. « Le petit Saubers les a trouvés en même temps. » « C'est ça que vous pensez ?»«
Ouais, » confirme Hodges.
« Et le contenu du carnet valait encore plus d'argent, sauf pour un négociant en livres rares à la réputation intacte qui aurait refusé de s'en approcher à moins de... »«
Je l'ai !»
hurle Holly, les faisant à nouveau sursauter. La Mercedes fait une embardée. Le conducteur, sur la voie de gauche, lance un coup d'avertisseur irrité et décoche un geste éloquent de la main.
« Quoi ?»
demande Jérôme.
« Pas quoi, Jérôme ? Qui ? John Rothstein, nom de Dieu, assassiné en 1978. Trois hommes, apparemment, se sont introduits dans sa ferme, dans le New Hampshire, c'était, et l'ont tué. Ils ont aussi forcé son coffre. Écoutez ça, publié dans le Union Leader de Manchester trois jours après le meurtre. »
Tandis qu'elle lit, Hodges quitte le périph' à la sortie Lower Main.
Il semble de plus en plus certain que les cambrioleurs recherchaient autre chose que de l'argent. Il est possible qu'ils emportaient un certain nombre de carnets contenant des écrits réalisés par M. Rothstein après son retrait de la vie publique, indique une source proche de l'enquête. Ces carnets, dont la présence a été confirmée hier par la femme de ménage de John Rothstein, pourraient se négocier à prix d'or au marché noir.
Les yeux de Holly flamboient. Elle est en pleine révélation divine. Un de ces moments où elle s'oublie complètement elle-même.
« Les cambrioleurs ont planqué leur butin, » dit-elle.
« Les 20 000 $, » dit Jérôme.
« Et les carnets ! Pete en a trouvé certains, peut-être même tous. Il s'est servi de l'argent pour aider ses parents et il s'est attiré des ennuis seulement quand il a essayé de vendre les carnets pour aider sa sœur. Halliday est au courant. À l'heure qu'il est, c'est peut-être lui qui détient les carnets. Dépêche, Bill ! Dépêche, dépêche, dépêche !»